En ce moment, notre Église met l'accent sur une vie de disciple, c'est-à-dire notre vœu et notre prière pour chacun de nous, pour chacun de vous, c'est que vous puissiez suivre Jésus et aider d'autres à le suivre. Et pour cela, nous regardons en particulier la vie de Pierre, l'apôtre Pierre, ce disciple, un des 12, qui a une place importante dans le Nouveau Testament. Et la vie de Pierre, sa vie de disciple, va nous aider nous-mêmes à être des disciples de Jésus-Christ. Alors ce matin, je vous invite à une lecture en Matthieu chapitre 16, versets 13 à 27. Beaucoup des chants que nous avons chantés ce matin sont inspirés des versets comme ce qu'on trouve ici. Matthieu chapitre 16, versets 13 jusqu'à la fin du chapitre. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde ?» s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Jour inoubliable pour Pierre. Jour où il a reçu les plus grands éloges de son maître. Jour où il a reçu 20 sur 20 sur l'interro-surprise de Jésus. Jour où il a reçu les clés du royaume, pas pour devenir le premier pape, mais pour jouer son rôle clé dans le démarrage de l'Église et de la mission qu'on trouve dans le livre des Actes. Mais c'est aussi le jour où il reçoit la reproche la plus sévère de la part de Jésus. C'est le jour où il devient l'outil, la porte-parole de Satan, qui veut essayer de saboter la mission de Jésus. Jour où Pierre fait étalage de son ignorance et de son immaturité. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on aime Pierre, parce qu'il est comme ça. En tout cas, ce jour-là, Pierre va apprendre une grande leçon dans sa vie de disciple, que nous devons aussi apprendre et réapprendre. C'est que suivre Jésus, c'est suivre Jésus sur un chemin de renoncement et de sacrifice. Ce que j'aimerais voir ce matin, la vie de disciple, c'est suivre Jésus sur le chemin de la croix. Et ensuite, nous allons voir trois raisons, malgré tout, à suivre ce chemin. Tout d'abord, comprenons ce que Pierre devait comprendre ce jour-là, que suivre Jésus, c'est suivre Jésus sur le chemin de la croix. Dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, cette scène est présentée de manière très importante. C'est le mi-parcours du récit. C'est un peu le mi-temps, le mi-parcours. Elle marque un tournant important dans le ministère de Jésus. Et jusqu'à là, le projet de l'auteur, c'est d'aider les gens à répondre à cette question que Jésus lui-même a posée en verset 13 et puis verset 15. Qui suis-je? Et donc, les évangiles, les auteurs, nous aident à pouvoir répondre à cette question. Et puis, Pierre lui-même va répondre à la question. Mais à partir du moment que Pierre répond correctement à la question, tu es le Christ, le Fils de Dieu, à partir du moment que Pierre répond correctement à la question, Jésus introduit une nouvelle dimension de sa personne et de ce que ça veut dire que de le suivre. Et en verset 21, juste après que Pierre répond à la question, verset 21 dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il souffre, qu'il fallait qu'il meure. » Et c'est ça, cette nouvelle dimension du Christ et de ce que c'est d'être son disciple. Tout le monde veut suivre un Messie gagnant. Tout le monde veut suivre un Messie puissant. Mais ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, soyons clairs, je suis parti pour être un Messie souffrant, un Messie perdant. Est-ce que vous voulez encore me suivre? Et il enchaîne avec le verset 24, après avoir parlé de sa mort et sa croix. Jésus dit au verset 24 à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et puisque Jésus a renoncé lui-même, il s'est renoncé et qu'il s'est chargé de sa croix, alors ses disciples vont adopter la même mentalité pour lui ressembler, pour marcher sur ses traces. Et Jésus, finalement, il ne veut pas amasser des disciples à sa suite qui n'ont pas compris cela. Et c'est pourquoi on dirait même que des fois, Jésus semble décourager les gens à le suivre, ce qui nous étonne. Verset 20, déjà, il dit, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ça fait pas très hashtag missionnaire dans mon quotidien. Pourquoi il leur dit ça? Il dit ça parce qu'il ne veut pas de faux disciples et à ce stade, beaucoup n'ont pas encore intégré le fait que Christ serait un Christ crucifié et pourraient le suivre pour les mauvaises raisons. Et Jésus ne veut pas ce genre de disciples. Par exemple, dans le passage qui nous a été lu en Luc, ce qui s'est passé le même jour, quelqu'un est venu dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Luc 9, 57. Mais au lieu de répondre, « Chouette, plus on est nombreux, plus on s'amuse, bienvenue. » Jésus a plutôt calmé ses élans en disant, « Le Fils de l'homme n'a pas un lieu à reposer sa tête. » Il semblait avoir discerné chez cette personne, peut-être il avait une belle maison, peut-être il aimait bien le quartier où il habitait, et tout en disant « je te suivrai partout où tu iras », Jésus semble vouloir quand même le prendre à côté en disant « là où je vais, déjà j'ai pas un lieu à reposer ma tête, et le jour où je serai couché, ce serait sur une croix. Est-ce que vraiment tu veux me suivre là? Est-ce que moi je suis plus important que ta maison ou ton quartier ?» Je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus l'invite à re-réfléchir. C'est que nous aimons chanter ici dans notre église, nous aimons chanter de beaux cantiques tels « Jésus, je te suivrai » ou « Je te donne tout » ou « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême ». J'aime ces chants, je les propose moi-même souvent. Mais des fois, savons-nous ce que nous disons, savons-nous ce que nous chantons? Si la vie de Pierre nous apprend une chose, c'est que nous devrions aussi nous méfier de nos grands vœux de fidélité, sachant si on prend en considération ce chemin de la croix. D'où des fois l'équilibre d'autres chants brise ma résistance. Notre propre volonté parfois n'est pas suffisante. Alors c'est quoi finalement renoncer à soi-même et porter sa croix? A priori, c'est pas tant renoncer à manger un deuxième dessert pour garder sa ligne. A priori, ce n'est pas vouloir plaire à tout le monde et dire oui à tout. Je me renonce à moi-même, donc je dis oui à tous les autres. Ce jour-là, Jésus n'a pas suivi les conseils de son ami Pierre. Il n'a pas dit oui à Pierre, il a même repris sévèrement. Donc renoncer à soi-même, c'est pas juste dire oui à tous les autres. Renoncer à soi-même pour porter sa croix, ce n'est pas un mépris pour tout ce qui est beau et bon dans la vie. sinon, fini les vacances, fini beaucoup de choses. Mais même ici, il semble que Jésus avait pris ses disciples à l'écart pour se reposer un peu, pour prier. Et c'est là où il leur pose la question, à Césarée de Philippe, c'est au bord de la mer, c'est sympa. Renoncer à soi-même, porter sa croix, ce n'est pas mépriser tout ce qui est beau et bon dans la vie. Renoncer à soi, ce n'est pas l'austérité du monastère non plus. D'ailleurs, Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur allemand à l'époque de Hitler, rappelle que Martin Luther a renoncé à lui-même et s'est chargé de sa croix lorsqu'il a quitté le monastère pour suivre Jésus. Pour Martin Luther, voilà, renoncer à lui-même, c'était quitter un monastère, quitter la vie de moine pour prêcher la vraie parole, l'évangile. Alors, renoncer à soi-même, porter sa croix. Si on prend cette image de la croix qui était très forte à l'époque, les gens n'ont pas encore vu Jésus crucifié, et pas les belles croix sur les bâtiments. Donc les propos de Jésus ici sont très choquants. Mais si on prend cette image, renoncer à soi-même, porter sa croix, c'est en quelque sorte crucifier sa propre volonté, c'est crucifier son propre confort pour vivre pour les autres. Pour vivre pour Dieu, pour vivre pour notre entourage, notre prochain, pour servir les autres. Voilà ce que c'est que de renoncer à soi-même et porter sa croix. En réponse à ce que Jésus est, en réponse à ce que Jésus a fait pour nous, voilà, nous mettons de côté notre propre volonté, notre propre confort pour servir et aimer les autres. C'est ça le chemin de la croix. Mais ce qui est frappant, ce qui est flagrant, c'est que ce chemin est un chemin complètement opposé à celui qui nous est conseillé par notre culture. Peut-être ces paroles de Jésus sont celles qui vont plus à l'encontre de ce qu'on entend de nos jours. Autour de vous, vous entendez des gens constamment vous dire « Fais ce que tu veux », alors que Jésus dit « Renonce à toi-même ». Vous entendez les gens dire « Poursuis tes rêves, rien ne peut t'arrêter de devenir ce que tu veux devenir ». Mais Jésus dit, prends ta croix. Toute notre culture dit, suis ton cœur. Et Jésus dit, suis-moi. Oui, c'est très différent. Et en cela, Pierre pourrait très bien passer pour une personne et un disciple de notre époque. Il va vouloir corriger Jésus. Certainement par amitié sincère. Il se soucie de Jésus. Il veut son bien, alors il va lui prendre à part en disant, faut pas faire comme ça. Il aurait pu utiliser les conseils d'une blogueuse célèbre que j'ai regardé sur YouTube. Jésus, prends contrôle de ta vie. Choisis qui tu veux être. Crois en toi. C'est à toi de créer ta réalité et ton avenir. Personne ne peut dicter ça pour toi. Si tu veux rendre service aux autres, il faut absolument exiger un retour de leur part. Ça, c'est Rachel Hollis, top vente sur Amazon. Voilà le message qui passe très bien de nos jours. On est face à deux conceptions de la vie très très différentes. Le chemin du moi ou le chemin de la croix. Ce que Jésus appelle les pensées des hommes et les pensées de Dieu. Et je me pose la question, avons-nous encore le moindre intérêt à suivre Jésus à notre époque avec son message de cette autonomie individuelle comme valeur suprême? Que faire de cet appel si impopulaire? Renonce à toi-même et charge-toi de ta croix. Vaut-il mieux réinventer la définition des disciples pour caler mieux avec notre époque, notre culture? Mais j'aimerais maintenant vous donner trois raisons malgré tout à suivre ce chemin. Et les propos de Jésus ne sont pas si insensés que ça. Au contraire, c'est ce chemin qui mène à la vraie vie. Jésus va donner trois raisons à choisir son chemin, chemin de la croix, au lieu du chemin du moi. En versets 25, 26 et 27, chaque verset commence avec « car ». Dans le grec, chaque verset commence avec « car ». Verset 25, « car ». Verset 26, « car ». Que servirait-il ? Et verset 27, « car le Fils de l'homme ». Donc on va voir les raisons, sur lesquelles Jésus appuie pour lancer cet appel. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il charge de sa croix, car. Alors la première raison, car c'est pour trouver notre identité, notre vraie identité, une identité viable. Verset 25, il dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Le mot ici pour vie, c'est pas la vie biologique en soi, mais c'est le psyché, c'est le soi, c'est notre être intérieur, notre âme. Et donc, en quoi ça correspond bien à notre époque, les gens sont là en train de vouloir sauver leur vie. Celui qui voudra sauver sa vie, ça correspond bien à cette quête moderne de se découvrir, de se trouver, de se réaliser, de se donner une valeur. Alors, de nos jours, pour ça, on dit, voilà ce qu'on va vous dire, voilà, tu cherches au plus profond de toi-même les désirs, les rêves qui sont là, au plus profond de ton cœur, de ton âme, et si tu suis les désirs, les rêves de ton cœur, tu sauras qui tu es vraiment. Ça c'est le schéma, ça c'est l'histoire de nos jours. Si tu cherches au plus profond de toi-même et tu trouves des désirs, des rêves, tu les suis et tu auras la vie, le bonheur. Ou encore, vous reconnaîtrez cette phrase, l'essentiel c'est d'être vrai envers soi-même. D'être vrai envers soi-même, voilà. Et il faut dire que tout n'est pas mauvais dans ce discours, donner une valeur à l'individu qui puisse poursuivre ses ambitions, ses rêves. On pense à certaines cultures, une femme par exemple, née en Afghanistan, d'autres pays du monde, sa culture va l'opprimer, à dire ton identité, c'est déjà mort, tu n'as aucun avenir devant toi, telle est notre religion, dicte que tu dois être comme ça. Donc, faut admettre que cette liberté, cette découverte, il y a un part de bon. Mais selon Jésus, cette méthode occidentale, en tout cas, de trouver son identité, n'apporte pas la vraie vie, le vrai bonheur. La méthode de toujours suivre le désir de son cœur, vous devez avouer que ça ne marche pas toujours. Toujours suivre le désir de son cœur, est-ce que ça peut toujours marcher? Non, déjà, quand vous allez au plus profond de vous-même, vous trouvez des désirs, vous allez trouver des désirs contradictoires. Que faire de ces désirs contradictoires? Aujourd'hui, peut-être on entend des voix, ils vont dire aux femmes, par exemple, si vraiment tu veux réussir, il faut que tu trouves ton identité dans ta carrière. D'autres voix vont dire, mais non, si tu veux vraiment trouver une valeur, et il faut que ton identité, c'est ta famille. Voilà, carrière ou famille, qu'est-ce que je fais? J'ai le désir de réussir, j'ai le désir de m'investir auprès de ma famille. Si je bâtis toute mon identité, soit sur l'un, sur l'autre, je vais vivre un tiraillement constant. Donc, il y a des désirs contradictoires dans nos cœurs qui rendent difficile de simplement suivre ces désirs. Il y a des désirs changeants. Avec le passage du temps, jeune, on veut faire telle chose, mais après, peut-être on a des regrets, on veut changer de voie. Dans ce cas, est-ce que c'est toujours bien que de suivre son cœur? Et même dans nos cœurs, il y a aussi, reconnaissons-le, des désirs illicites, des désirs mauvais, parfois des désirs pervertis. Faut-il toujours suivre ces désirs-là, quand il s'agit d'orientation sexuelle ou d'autres? Ça peut aussi mener à des problèmes. Donc, faisant ce constat, finalement, Jésus a raison de nous parler ainsi. Suivre égoïstement ses propres désirs ne peut pas être l'objectif principal de ma vie. Alors, quand Jésus dit, oubliez cette manière de vivre que le monde vous conseille, oubliez cette manière d'être, de vouloir toujours sauver sa vie, je vous propose une autre voie, c'est de renoncer à ces choses et de me suivre. Et en moi, vous allez trouver une identité beaucoup plus stable, beaucoup plus forte. On va préciser cette pensée maintenant, cette identité. Une deuxième raison de marcher sur le chemin de la croix, c'est pour trouver les bonnes priorités. Car, Jésus continue, en verset 26, « Car que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Là, il s'agit d'une question de priorité. Et encore, on revient sur la question de l'identité. Les gens construisent leur identité souvent sur ce qu'on peut gagner de ce monde, tout ce qu'on peut gagner dans ce monde. Une carrière, de l'argent, une réputation, des conforts. On cherche à gagner, à amasser un maximum de ces choses pour réussir. Et Jésus dit, que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Notre âme n'est pas que notre identité, notre conception de soi. Notre âme est aussi, c'est ce qui fait que nous vivons éternellement. Et malgré tout ce qu'on peut gagner dans ce monde, il n'y a que Jésus qui peut nous sauver, qui peut sauver notre âme après la mort. Alors ça va de soi. Si Jésus est bien la personne qui disait être plus qu'un prophète, plus que Élie, Jérémie, plus qu'un prophète, plus qu'un ange. D'ailleurs, c'est intéressant, on verra, il parle d'un jour, il va revenir avec ses anges. Le Fils de l'homme reviendra avec ses anges. Ce sont les anges de Jésus. Alors, il n'est pas un ange, il est au-dessus des anges. Si Jésus est bien la personne qui disait être plus qu'un prophète, plus qu'un ange, c'est-à-dire le Dieu et maître de l'univers, alors bien sûr, tout le reste doit passer après lui. Bien sûr, il doit être en priorité dans nos vies. Sinon, notre âme court un danger de se perdre. Et justement, si Jésus nous appelle à des renoncements, c'est pour être sûr qu'on n'est pas en train de perdre notre âme en plaçant notre confiance dans des choses qui vont nous décevoir, notamment à la fin de notre vie. Lorsque la mort nous enlève tout ce qu'on a pu gagner ici-bas. Si Jésus nous appelle à des renoncements, c'est pour être sûr qu'on n'est pas en train de placer notre confiance dans d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il demande d'être en premier. Rappelez-vous les hommes en Luc 9. L'un qui dit « Je te suivrai », Jésus dit « Les renards ont leur tanière, mais moi j'ai pas un lieu à reposer ma tête. Est-ce que tu es prêt à laisser de côté ta maison, ton confort ?» Et d'autres hommes qui disent, et Jésus les appelle, « Suis-moi !» Et l'un dit, les deux plus ou moins dit, « Permets-moi d'abord d'aller voir ma famille, peut-être de m'occuper de mon père mourant, ou de dire au revoir, prendre congé. » Et là, ce qui nous étonne, c'est que Jésus leur répond avec des paroles qui semblent radicales, sévères. « Laisse les morts ensevelir les morts. Quiconque met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Jésus est-il insensible? Est-ce que la famille n'est pas une valeur pour lui? Non. Mais Jésus parle ainsi pour être sûr qu'il est à la bonne place, qu'il a toute la priorité dans nos vies. Parce que dès l'instant qu'on dit à Jésus, oui c'est très bien, je t'ai suivi, mais d'abord j'ai d'autres choses à régler. Finalement, c'est qu'on n'a pas compris qui est Jésus. On n'a pas compris la grandeur de son salut. Et si on dit à Jésus, oui, je te suivrai, mais j'aimerais d'abord trouver un travail. Mais j'aimerais d'abord me marier. C'est qu'au fond, on compte sur le travail ou le mariage ou d'autres choses pour nous apporter un bien plus grand que Jésus. Alors Jésus, c'est pour ça qu'il veut être. C'est pour ça qu'il parle des priorités. Que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Je pensais, vous connaissez Indiana Jones peut-être dans une scène finale d'un des films, celui où il y a la recherche du Saint Graal. La scène finale, il est au bord d'une falaise, il tient cette femme qu'il a pourtant trahi, plus ou moins. Mais il est prêt à lui offrir, à la sauver de bord de la falaise. Mais elle voit le Graal qu'elle peut. Mais l'écart de ses bras n'est pas suffisamment long. Soit elle tient la main d'Indiana Jones pour le salut, ou elle essaie d'attraper le Graal avec l'autre main, mais et ce Graal représente pour elle tout ce qu'elle peut gagner dans ce monde. Mais il faut, pour être sauvée, elle peut pas lâcher les deux. Et finalement, elle tombe à sa perte. Et c'est comme ça que Jésus dit, il y a des choses on peut pas tenir les deux, parce que sinon c'est pour votre perte. Alors, lâche un pour saisir ma main. Voilà aussi ce que veut dire ce verset, l'intérêt de suivre le chemin de la croix, et ce chemin de renoncement pour être sûr que notre salut est en Jésus-Christ. Et je vous laisse une troisième raison, c'est pour trouver une éternité de gloire aussi. Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et c'est ce qu'il avait dit à ses disciples, même en verset 21. Il leur a dit, je vais souffrir, je vais mourir, mais je vais aussi ressusciter le troisième jour. Tout ça, c'était prédit, c'était annoncé. Jésus sait déjà que sa mort sera suivie d'une résurrection. Et puis un jour, son retour en gloire, comme il en parle en verset 27, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et Jésus va prendre quelques-uns, Pierre, Jacques et Jean, ce sera encore un jour inoubliable pour Pierre, quelques jours plus tard, une semaine plus tard. Et là, Jésus va leur donner un aperçu de sa gloire, de son règne, de cette puissance, de cette majesté. Et c'est vrai que Pierre va se souvenir bien plus tard, il écrit dans son épître, « Là, nous étions un jour avec Jésus, et nous avons vu sa gloire, nous avons vu sa majesté. » Et là, quand on a vu ça, oui, le renoncement et ce chemin de la croix, ça prend son sens. On est prêt à faire tout ça si c'est pour vivre, être avec ce Jésus, le Jésus glorieux. Vous voyez, il y a quand même une perspective éternelle, on n'a pas oublié. Le jugement, il ne faut pas se trouver face à Jésus comme juge, mais la résurrection en gloire, la possibilité de vivre avec Jésus, d'être avec lui dans sa gloire, ça peut nous motiver aussi à vivre des renoncements. Parce que sans cet aspect, sans cette résurrection, tout ce qu'on a dit ce matin ressemble un peu trop aux religions orientales où le renoncement est une fin en soi. Les souffrances, il faut s'y faire et rester zen. Mais la perspective chrétienne, c'est bien plus. C'est une, oui, il y a la croix, il y a la souffrance, mais il y a une résurrection. Avec un jugement du mal, où le Fils rendra à chacun selon ses œuvres, mais ceux qui se sont confiés dans sa grâce peuvent vivre éternellement avec lui. Donc face à cet avenir, oui, nous pouvons prendre le chemin de la croix. Donc malgré tout ce que dit notre époque, les propos de Jésus finalement sont sensés. Quelqu'un qui a fait beaucoup de disciples, en tout cas pour notre génération, peut-être pour la génération de mes enfants, c'est Elsa, la reine des neiges. Vous connaissez son témoignage, parce que vos enfants le chantent. Voici son témoignage. Le bien, le mal, je dis tant pis. Libéré, délivré. Désormais, plus rien ne m'arrête. Libéré, délivré, plus de princesse parfaite. Le bien, le mal, je dis tant pis. Plus rien ne m'arrête. Je ne vais plus être la princesse parfaite. Je suis libéré. Délivré et libéré de toute contrainte qu'on peut imposer mon éducation, ma culture, les attentes des autres, libéré, délivré. Le bien, le mal, je dis tant pis. Devant Jésus, le juge majestueux et puissant, c'est pas sûr qu'on aurait envie de dire ça. Le bien, le mal, tant pis. J'ai vécu à ma façon. En réalité, Jésus nous offre bien mieux que cette autonomie absolue qui est devenue valeur suprême de notre époque. Oui, Jésus nous offre la possibilité d'être imparfaite. On l'est tous comme Pierre, on le voit bien. Mais justement, il nous offre la possibilité d'être libérés et délivrés de la condamnation qui mérite nos péchés et nos fautes et nos imperfections. Et là, on peut être vraiment délivré et libéré parce qu'il a payé pour nous à la croix. Et à partir de là aussi, on peut être délivré et libéré de nous-mêmes pour servir d'autres, pour se donner, pour renoncer à son propre confort, sa propre volonté, pour chercher le bien des autres, pour vivre pour Jésus et plus pour nous-mêmes. Là, ça c'est la vraie liberté, la vraie délivrance. Je terminais avec l'histoire qui m'a touché. D'un théologien, il s'appelle Benjamin Warfield, il a écrit sur l'autorité et les inspirations des Écritures, il a vécu début 20e siècle, et c'était un spécialiste notamment de la Bible, l'autorité de la Bible, et donc c'est tous les étudiants en théologie passent par lui, parce que c'était un des experts sur pourquoi nous croyons cette Bible, elle est sans erreur, elle est fiable, et voilà, ses écrits ont beaucoup aidé l'Église à tenir ferme face à des attaques. Mais une histoire intéressante, c'est que lors de son voyage de noces, jeune marié, voyage de noces, ils partent en Allemagne pour voyage de noces, après un beau mariage, et sa femme, sa nouvelle femme, est frappée par la foudre lors de leur voyage de noces. Elle est paralysée pour le restant de sa vie. Ça, c'est un voyage de noces. Ça, c'est un jour inoubliable. Et à cause des besoins de santé de sa femme, qui restait paralysée, il ne pouvait jamais s'absenter de plus de 2 heures de la maison pour le restant de sa vie. C'est pas sûr qu'il a envie de chanter, délivré, libéré, plus rien ne m'arrête, je fais ce que je veux. Non, ça, c'est pas l'attitude qu'il a adoptée. Il est resté fidèle à sa femme pendant 40 ans pour le servir. Comment il a pu faire ça? Parce qu'il connaissait ce Jésus qui lui aussi a renoncé à son confort, renoncé à sa gloire et qui a donné sa vie par amour. Donc son appel encore ce matin, c'est un appel d'amour, c'est pas un appel sévère, un appel insensible, c'est un appel d'amour parce que c'est dans ce chemin que nous trouvons la vraie vie, le vrai bonheur. Que Dieu nous aide à marcher sur ce chemin de la croix. Je vous invite à terminer en priant avec moi. Seigneur, encore ce matin, nous te prions de nous convaincre de la beauté et la pertinence des paroles de Jésus-Christ. C'est vrai, nous te prions de nous aider à discerner cet appel qui est si différent de ce qu'on entend autour de nous. Et pourtant, nous croyons, nous voulons trier entre la pensée, tes pensées et la pensée des hommes et savoir préférer tes pensées parce qu'elles sont vraies et ce qu'elles apportent à la gloire et à la vie éternelle. Je te prie que ce matin, chacun ici puisse marcher sur ce chemin de la croix, avec ses renoncements, avec ses souffrances, avec cette humilité. Mais nous ne perdons rien, nous gagnons tout, nous gagnons la vie, nous gagnons l'éternité, nous gagnons la présence de ton Fils Jésus. Et pour cela, nous te remercions. Merci pour ton amour pour nous, tu as toujours été honnête avec nous à dire le prix de la consécration, mais c'est aussi Jésus qui, en marchant devant nous, en étant le premier à vivre ces choses, nous porte et nous guide et nous aide. Nous te prions qu'il soit encore glorifié ce matin, béni la suite de cette journée avec cet atelier sur être missionnaire dans mon quotidien. Nous voulons aussi aider d'autres à découvrir la joie et la beauté de suivre Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.